Panorama Économie.
Bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. À la une, le bilan 2013 dressé par le Premier ministre Matata Ponyo estime que les réserves d'échange sont stables, ce qui donne plus de sécurité à la monnaie nationale. Et puis les Chinois n'ont pas déboursé de l'argent en 2013 pour la réalisation d'infrastructures comme convenu avec l'État congolais. Cette situation serait liée au non-respect par la partie congolaise des engagements pris dans le cadre de contrats chinois. Nous dirons aussi et mots sur ce bilan que dresse la DGDA pour 2013. Cette régie financière, à travers son directeur général, déclare avoir réalisé plus de recettes que prévu pour l'année dernière. Panorama économique, ce samedi reçoit les sénateurs Bettina. Il est donc à la chambre haute du Parlement, comme je le dis, mais dans cette rétrospective de la semaine, nous le recevons comme économiste de formation. Il est donc au téléphone. À la présentation de cette émission, Paul Matendo et François Kadima. Bonjour Paul.
Bonjour François.
Panorama économique, le dossier.
La République démocratique du Congo a atteint à ce jour plus de 1,7 milliard de dollars américains de réserves d'échange sans appui budgétaire du Fonds monétaire international.
Oui François, cette stabilité de réserve donne plus de sécurité à la monnaie nationale et permet au pays de projeter une croissance économique à deux chiffres ou encore une croissance économique améliorée. Déclaration du Premier ministre qui dressait les bilans en 2013 de l'action du gouvernement le week-end dernier devant la presse à Kinshasa. Selon Augustin Matata Ponyo, cette croissance économique reste un élément moteur pour la création de richesses et l'amélioration du social des Congolais. Le Premier ministre Matata Ponyo, dans cet extrait que nous propose Radio Okapi.
La relation entre stabilité et taux de croissance fait qu'aujourd'hui, notre économie peut, sans beaucoup de difficultés, projeter les taux de croissance à des chiffres. La croissance économique, c'est ça l'indicateur clé pour mesurer la création des richesses. Si vous devez augmenter les salaires, si vous devez faire des routes, des hôpitaux, des ceci, vous devez créer des richesses. Vous devez créer des revenus. Et ces revenus doivent être distribués. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire que la stabilité macroéconomique, la stabilité réserve d'échange, parce qu'aujourd'hui nous avons atteint un peu plus d'1,7 milliard de dollars, alors que nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international, mais nous avons accru nos réserves d'échange pour donner davantage de sécurité à la monnaie nationale. Nous devons vous dire que cette stabilité macroéconomique, cette création des richesses, nous a permis d'orienter les ressources vers le secteur social.
C'était là le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Alors, monsieur le sénateur Bettina, vous êtes avec nous?
Oui, je suis à votre écoute.
Ok, je rappelle que vous êtes notre invité dans le cadre de cette rétrospective de la semaine, donc Panorama économique sur Radio Capi. Le Premier ministre parle d'une croissance économique à deux chiffres pour la RDC. Est-ce que cela peut aider le pays à créer des richesses et améliorer justement les sociales de Congolais comme le déclare Augustin Matata Ponyo?
Bien sûr, c'est une croissance à deux chiffres. Si jamais on atteignait cette croissance à deux chiffres, ce serait très salutaire pour la macroéconomie, le produit intérieur brut de la République du Congo. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que cette croissance est impulsée presque exclusivement par les mines et les hydrocarbures. Ça veut dire que les chiffres pour la nation sont élevés, mais regardez tous les pays africains, tous les pays qui vivent essentiellement de pétrole, la paupérisation n'est pas du tout entamée par ceci. Donc, la croissance doit entraîner une meilleure distribution. Je suis désolé de vous dire que aujourd'hui, les recettes extérieures de la République du Congo proviennent à 98%. Je vous répète, 98% du secteur minier et du secteur pétrolier. Alors qu'à la veille de l'indépendance, l'agriculture avec 49%, et les mines 51%.
Oui, monsieur le sénateur, alors selon vous, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour que cette croissance soit inclusive, c'est-à-dire que le peuple congolais se retrouve?
Ce que le gouvernement doit faire, c'est ce que le gouvernement sud-africain a fait en son temps, lorsqu'il a constaté que les Noirs, maintenant, sont accèdent au pouvoir politique, mais sont nulle part dans le pouvoir économique. Ils ont volontairement créé la classe moyenne sud-africaine noire. Il faut créer une classe moyenne congolaise, et véritablement congolaise, pour que la croissance soit correctement distribuée et atteigne l'ensemble de la population congolaise, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.
Voilà, monsieur le sénateur, restez avec nous. Un autre dossier de la semaine, c'est les contrats chinois qui sont en panne pour le Matendo.
Nous allons suivre les explications d'Innocent Olinga qui a enquêté sur ce dossier dans cet entretien avec vous, François Kadima.
Bonjour Innocent, dites-nous pourquoi ces contrats sont presque à l'arrêt.
Bonjour François, c'est vrai que ces contrats sont en panne du fait que selon notre source, toute l'année 2013, les Chinois n'ont déboursé aucun sou dans les volets infrastructures. Mais à la cellule chargée de suivi des contrats sino-congolais, on reconnaît qu'il y a un peu de difficultés, mais on refuse d'admettre qu'il y a une panne dans l'exécution des 10 contrats.
Oui, panne ou difficulté, Innocent, c'est peut-être un jeu de mots. Mais pour quelles raisons les Chinois n'ont-ils pas déboursé l'argent en 2013?
Eh bien, la raison est simple. La RDC n'a pas respecté tout simplement ses engagements en ce qui concerne notamment les garanties contre les risques politiques contenus à l'article 15 de ces contrats.
Alors, que dit cet article?
L'article stipule que dans 12 mois qui suivaient l'approbation du projet de coopération par les gouvernements chinois, la RDC devait obtenir de son Parlement l'adoption d'une loi devant sécuriser les régimes fiscaux, douaniers et d'échanges applicables à ces projets de coopération en raison de sa spécificité. Cette loi exigée par les Chinois les protège contre toute appropriation, nationalisation dans le futur de leurs entreprises par les gouvernements congolais ou l'expropriation directe ou indirecte de la joint-venture minière ainsi que son patrimoine. Mais l'adoption de cette loi tarde toujours au Parlement et cela fait que les Chinois soient beaucoup réticents.
Réellement Innocent, combien les Chinois doivent-ils débourser dans le cadre de ce contrat?
Ce qu'il faut savoir François, c'est que initialement ces contrats étaient conclus pour 9 milliards de dollars américains, mais ils ont été revus à la baisse à 6,2 milliards après les coups de gueule du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et 3,2 milliards de cette somme doivent être investis dans le secteur minier à travers la Sicomine, c'est une entreprise basée au Katanga, et le reste de cette somme, soit 3 milliards, est destiné aux infrastructures. Mais à ce jour, il n'y a que près de 1,7 milliard qui sont déjà déboursés dans l'ensemble, et dont jusque-là 468 millions pour les infrastructures.
C'est peut-être la dernière question avant de vous laisser partir. Quel est le chronogramme ou l'échéance exacte de ce contrat chinois?
Comme on peut le remarquer François, ces contrats chinois ont deux volets, les mines et les infrastructures. S'agissant par exemple des infrastructures, il était prévu qu'on débourse 250 millions de dollars chaque année. Alors si vous prenez 3 milliards et vous divisez par 250 millions, ça vous fait 12 ans. Mais c'est sans compter les retards comme celui que l'on vient de connaître.
Alors merci beaucoup Innocent Olinga.
Merci François.
Voilà, monsieur le sénateur, vous êtes avec nous?
Oui, bien sûr.
Ok, monsieur le sénateur, les contrats chinois ont du mal à continuer juste parce que, comme nous venons de l'entendre, la République démocratique du Congo n'a pas respecté ses engagements en ce qui concerne notamment les garanties contre les risques politiques contenus dans l'article 15 de ce contrat.
Je veux dire que je n'ai pas connaissance de ce projet de loi pour en faveur de, disons, pour garantir aux risques politiques en faveur de contrats chinois. C'est peut-être que ça se trouve à la chambre basse. Moi, je suis à la chambre haute et je n'ai pas connaissance de ça. Je suis désolé de vous dire que effectivement. D'après mes quelques informations que dont je dispose, les Chinois, au départ, étaient d'assez bonne volonté et auraient même, se seraient même engagés auprès de leurs banquiers pour couvrir la contrepartie congolaise en espérant que ça viendrait et que ça serait récupéré et que ça se réglerait. Et voilà, ça a pris du retard et nous sommes à ce niveau où le contrat est mis gravement en danger. J'apprends aussi que en 2013, pourtant, le ministère des Infrastructures avait un budget assez conséquent. Et j'apprends que ce budget pour 2014 est légèrement revu à la baisse. Donc, ça risque encore d'aggraver les choses. Ça, ce sont des informations que je vous livre comme ça, de façon assez brève.
Monsieur le sénateur, vous êtes dans la commission des infrastructures à la Chambre haute. Je voulais savoir, quelle est l'analyse de la Chambre haute du Parlement sur le projet chinois, exactement?
Bien, je crois que le peuple congolais a approuvé ce projet chinois dans l'ensemble. Et même nos partenaires traditionnels qui combattaient ça au départ, à un moment donné, sont arrivés à la conclusion que nous étions libres de nous engager avec qui nous voulons. Donc, c'est quelque chose. Et nous, la Chambre haute n'est pas coupée, hein, n'est-ce pas, du peuple. Alors, quand le peuple accepte un contrat, d'une façon générale, la Chambre haute en prend acte. Donc, moi, je crois que c'était une bonne chose, l'affaire qui consistait à poursuivre correctement l'exécution de ce contrat. Et même à l'origine, le contrat avait la partie sociale, hein. Je crois que les parties en matière de santé consistaient à ce qu'après la clinique de centenaire qui tarde à s'ouvrir, hein, il y aurait des cliniques dans chaque chef-lieu de district, donc maintenant de nouvelles provinces, de 250 lits. La clinique de centenaire, c'est à peu près 500 lits. Là, on aurait 250 lits. Dans les territoires, des cliniques de pointe en matière technologique, de 100 lits. Et voilà, tout ça risque, écoutez, je ne sais pas quel avenir on attend.
Oui, monsieur le sénateur, vous avez dit que vous êtes économiste de formation. Vous ne savez pas que c'est avec les coups de gueule du FMI que ces contrats ont rencontré beaucoup de difficultés dans leur réalisation ou leur exécution?
Non. Évidemment, au départ, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres bailleurs de fonds étaient opposés à ça parce que c'était de la concurrence. Ils croyaient que c'était une concurrence peut-être déloyale. Mais l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, qui a eu le problème que vous connaissez, est passé une fois à Kinshasa. Il a fait une conférence dans notre salle de réunion, non, de la Chambre haute. Moi, j'ai participé à ça, et c'est alors qu'il a dit clairement que non, M. Dieska a dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, il ne s'opposait plus à rien, et le Fonds monétaire ne voyait aucun mal dans le contrat chinois. J'ai écouté ça de mes oreilles.
Voilà, je rappelle que nous sommes dans Panorama économique, et nous avons comme invité le sénateur Bettina, qui nous recevons aujourd'hui comme économiste. Autre chose à présent, à la Direction générale des douanes axes, DGDA, la DGDA donc a mobilisé un taux de plus de 5,5% par rapport aux objectifs lui assignés par la loi financière pour l'année 2013. Cette information a été annoncée à la presse mardi à Kinshasa par le directeur général de la DGDA. Doro Gwiza s'exprimait ainsi à la 7e session des directeurs centraux et provinciaux de cette régie financière. Selon lui, cette session est consacrée à l'évaluation des activités 2013 et définit les stratégies pour doubler les recettes pour l'exercice 2014. Doro Gwiza.
Il s'agira bien sûr de faire le bilan de ce qui a été fait en 2013. Nous l'avons dit en passant dans notre allocution, mais également d'arrêter des stratégies pour réaliser les assignations de 2014. Les assignations de 2014 sont beaucoup plus élevées que celles de 2013. Les besoins du gouvernement vont toujours croissant, c'est tout à fait normal. Les assignations de 2014 représentent 50% de plus qu'en 2013. Pour 2013, les assignations étaient de 1633 milliards, ça c'est 2013, mais en 2014, c'est 2456 milliards. Donc ça fait 50% de plus. Mais les atteintes, donc les recettes réalisées en 2013, étaient de 1714 milliards. Nous voudrions, si pas dépasser ce taux de réalisation en 2014, mais au moins l'atteindre.
D'une régie financière à une autre, François, à la Direction générale des impôts, DGI, l'échéance pour le paiement de la compte de l'impôt sur les bénéfices et profits par les petites entreprises est intervenue ce vendredi 31 janvier. C'est ce qu'a annoncé mardi à Radio Okapi le directeur général de la DGI. Selon Didonné Lokadi, les paiements de cet acompte concernent uniquement des entreprises dont les chiffres d'affaires annuels varient entre 10 millions et 80 millions de francs congolais. Didonné Lokadi est au micro de Radio Okapi.
Principalement des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel va de 10 millions de francs congolais à 80 millions. Donc celles qui sont dans cette fourchette, qui sont en fait les petites entreprises. Alors pour cette catégorie-là, l'impôt annuel est calculé sur base du chiffre d'affaires qu'ils ont eu à réaliser. L'impôt est de 1% pour ces entreprises qui font les activités de commerce, donc d'achat et revente. Et pour celles qui sont dans les prestations de services, c'est 2% du chiffre d'affaires. Alors, à l'échéance du 31 janvier, ces petites entreprises sont tenues de pouvoir payer 60% du montant de l'impôt qu'ils doivent au titre de l'année.
Sénateur Bettina, les régies financières cherchent à mobiliser plus de recettes pour 2014. Cas de la DGDA, à travers son DG que nous avons suivi tout à l'heure, il déclare avoir réalisé un taux de plus de 105% par rapport aux objectifs lui assignés par la loi financière pour l'année 2013. Comment vous percevez cet optimisme de régie financière dont la DGDA?
Je m'en réjouis pour le peuple et pour le budget. Je m'en réjouis si la régie financière arrive à atteindre des performances qui permettent de booster le budget de la République. C'est vraiment une très bonne chose. Mais je ne sais pas si vous avez suivi le débat général sur le budget 2014 à la Chambre haute. Moi, je suis intervenu pour dire au vice-premier ministre et ministre du budget que c'était bon de faire ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire qu'il fallait parfois qu'il avait des fuites qu'il fallait colmater, mais c'est une vue à court terme. Une vue à court terme. À moyen et long terme, l'accroissement du développement de la population, du peuple congolais, consiste à élargir l'assiette fiscale, à élargir le gâteau, comme on dit dans la théorie économique, on dit le gâteau. Si le gâteau a une taille déterminée et vous faites des efforts pour mieux la répartir, vous ferez le maximum d'efforts, mais vous êtes bloqué par la taille du gâteau. Le travail du gouvernement, le travail essentiel consiste à agrandir la taille du gâteau, à doubler, à grandir rapidement et la taille du gâteau. De sorte que, toutes choses étant égales par ailleurs, si la taille du gâteau a augmenté, la part de chacun va augmenter. Et c'est ça une vision qui doit nous amener demain, comme on veut le dire, nous, à 2018, le Congo soit pays à revenus intermédiaires et à 2030, un pays émergent. Si la taille de gâteau n'augmente pas, les régies financières travaillent sur la même taille de gâteau depuis 5, 6 ans, 10 ans. Ils vont un peu améliorer, mais c'est rien.
Monsieur le sénateur, on va revenir sur le budget 2014. Par rapport aux régies financières, dernièrement, l'année dernière, on a parlé de coulage des recettes et on a visé particulièrement les régies financières. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin au coulage de recettes dans les régies financières?
Je pense qu'on a beaucoup progressé. Maintenant qu'on a accepté que sur les montants perçus, ils aient leur part, qu'ils leur aient rétrocédé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Pour le coulage, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Il faut peut-être... Quand, à mon avis, alors, il reste ceci, quand quelqu'un a fauté, qu'on l'arrête. On n'attend jamais qu'on a arrêté quelqu'un, parce qu'il a fauté. Et pourtant, le coulage continue, on en parle, mais on ne montre pas à la télévision, voilà, il a un tel, il a fait ça, et il n'y a aucune action de dissuasion hein, en matière de mise aux arrêts des récalcitrants.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
À présent, le reste de l'actualité en bref, en direction Kasaï occidental, où une importante délégation composée, entre autres, des ambassadeurs de l'Inde en RDC et de la RDC en Inde, des banquiers indiens et le conseil du chef de l'État a visité jeudi le site de la centrale hydroélectrique de Katende. Cette délégation, conduite par le gouverneur de province, était allée se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de cette centrale qui ont débuté depuis juillet 2013.
Au sud Kivu, la Fédération des entreprises du Congo interpelle les autorités douanières de la province par rapport à la lenteur observée au niveau des frontières, précisément dans le processus de dédouanement des marchandises. Une situation qui cause des dommages, surtout en ce qui concerne les vivres frais. Ces produits qui traînent dans la zone de dédouanement deviennent impropres à la consommation.
Pendant ce temps, au Bandundu, des dizaines de véhicules restent bloqués sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Kilembe village, situé à près de 200 km à l'est de la ville de Kikwit. Un trou béant causé par les eaux de pluie empêche les véhicules de circuler normalement. Et les opérateurs économiques déclarent perdre beaucoup de leurs marchandises lorsque les véhicules se renversent à cet endroit, mais aussi le temps que ces véhicules mettent pour arriver avec leurs marchandises à destination.
Adoption mercredi au Sénat du projet de loi des finances exercice 2014. Si cette adoption est intervenue quasiment dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale, la Chambre haute du Parlement a tout de même demandé qu'une enveloppe de près de 7 milliards de francs congolais soit réservée pour le fonctionnement de la Commission nationale pour le recensement, et ce, en prévision, selon le Sénat, des élections générales à venir. Notons que ce budget devrait maintenant être envoyé à la présidence pour sa promulgation.
Pour terminer, parlons de la paralysie dans toutes les écoles conventionnées catholiques. Ces enseignants ne donnent pas cours suite à un litige qui les oppose à Ecobank. Ils accusent l'agence de cette banque à Bounia de retenir illégalement une certaine somme dans les salaires que le gouvernement paye à travers leur compte. Des accusations que la banque africaine rejette en indiquant qu'il y a des services électroniques auxquels ces fonctionnaires accèdent à un prix, donc dérisoire, et qui sont facturés chaque mois. Voilà, monsieur le sénateur, vous êtes là avec nous.
Oui, je suis là.
Oui, un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité passée tout à l'heure.
Bien, nous venons de voter le budget en termes identiques avec l'Assemblée nationale. Hein, le premier vote, c'était chaque chambre avait voté. Et comme toujours, quand ce n'est pas en termes identiques, il faut une commission mixte paritaire pour concilier les termes, en fait d'envoyer au chef de l'État un seul texte qui a été voté dans les deux chambres. On vient de le faire pour le budget, et comme vous l'avez dit, c'est très bon, c'est vrai, nous avons ajouté 7 500 milliards de francs congolais au ministère du plan parce que Le recensement de la vie générale est un préalable aux élections. Hein? Il faut plus de faire des élections sur base d'estimations hypothétiques et sur base d'enrôlement parce que dans certaines provinces on appelle des propagandes contre l'enrôlement. Donc on va dire qu'ils sont pas nombreux alors que c'est pas vrai. Donc le véritable recensement, c'est ça qu'on attend et nous avons dû ajouter ça et nous sommes heureux, la Chambre sœur a accepté et nous avons voté le budget maintenant en termes identiques. Il va être rendu, peut-être publié incessamment parce qu'à partir de demain matin, quand le bureau de l'État s'ouvre, si le budget n'a pas été publié, personne ne peut signer aucun acte d'engagement de l'argent du peuple congolais.
Panorama économique, reportage.
À Kongolo, dans le Katanga, les usagers se plaignent du mauvais état de la route Kongolo-Mbujimayi. Ils citent particulièrement quatre ponts délabrés sur une distance d'une quarantaine de kilomètres. Pourtant, cette route revêt d'un intérêt économique indéniable. C'est par cette route que les poissons et autres produits agricoles du Katanga atteignent les deux Kasaï. En retour, certaines localités du Katanga sont approvisionnées en produits manufacturés. C'est un reportage signé Expedi Mwambamubi.
Le sort du pont Mungui, à 28 km de Kongolo centre, près de la localité Kaseya, préoccupe les usagers de la route Kongolo-Mbujimayi. En avril de l'année dernière, le vieux pont a été démoli par la coopération technique belge. Depuis, affirment les usagers, les travaux tardent à aboutir. Pour l'administrateur de territoire, Pascal Loukenta, la CTB n'a pas tenu compte du facteur temps pour engager ses travaux.
La CTB, qui a pris la charge de construire un pont là-bas, n'a pas choisi le moment opportun parce que pour moi, ça devrait se faire pendant la saison sèche. J'aimerais préciser qu'il y a une déviation pour permettre le passage, mais ça complique un peu à cause des rivières qui prennent du volume.
Il n'y a pas que le pont Mungui. Les ponts Kabondo, 40 km de Congo le centre, Baombo à 12 km et Kabinda à 2 km sont également dans un état de délabrement. L'administrateur Pascal Loukenta au sujet du pont Kabinda.
Ce pont est encore accessible, hein, mais nous avons le devoir de préciser avec nos guides de route quel est le tonnage qu'il pourrait encore supporter. Parce qu'il est en train de s'affaisser du côté gauche.
La route Kongolo-Mbujimayi, 550 km de long, est en fait un tronçon sur la route nationale numéro 4. Par cette route, les deux Kasaï sont approvisionnés en poissons et produits agricoles du Katanga. En revanche, certaines localités du Katanga se ravitaillent en produits manufacturés. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Merci Expedi Mwambamubi. Je rappelle que nous sommes dans Panorama économique. Alors, sénateur Bettina, nous allons finir cette émission, mais un commentaire à placer dans ce reportage.
Oui, ça s'inscrit dans le problème général de nos infrastructures. Hein. J'ai été moi-même, dans ma jeunesse, j'avais 31 ans quand j'étais ministre. À l'époque, on appelait commissaire d'État aux travaux publics et aménagement du territoire. Donc, j'ai géré l'ensemble des routes de la République démocratique du Congo, du Zaïre à l'époque. Donc, la route, une expression qui dit, je cite, la route amène la civilisation. Fin de citation. Donc, si vous n'avez pas de route, non seulement vous avez des problèmes matériels hein, d'approvisionnement, mais la civilisation elle-même ne vous arrive pas. Hein? Ce qui se passe, c'est là-bas dans le Katanga, mais on pourrait trouver des exemples à beaucoup dans d'autres endroits où il n'y a plus de route, où on passe difficilement en vélo, où on passe difficilement en moto. Donc, c'est une question d'ordre général.
Voilà, nous allons nous quitter là pour Panorama économique ce samedi. Nous allons dire merci au sénateur Bettina. Il est économiste donc de formation. Il fait partie de la commission infrastructure à la Chambre haute du Parlement. Panorama économique, c'est chaque samedi de 12h30 à 13h. On va se quitter là. La présentation était signée Paul Matendo et François Kadima. Paul, on retrouve les auditeurs le samedi prochain.
Tout à fait, samedi prochain.
Et déjà lundi, nous sommes dans Écho d'économie à 18h15. Prenez rendez-vous avec nous. Cette émission a été coordonnée par Nicole Ngaka sous l'œil technique de Sylvain Matundou. Merci beaucoup, sénateur Bettina.
Grand merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler au peuple.
Et surtout, bon week-end.
Bon week-end.
Ok, merci beaucoup. Au revoir.